about the people too. And a black shiny fish is. You wear a people too. And a black shiny fish is. Now you tell everybody, keep it up, you're gonna be well paid. You never use your hands, you will never comprehend. You never use your hands, you will never comprehend. Use that silver tongue now, and now it's telling me I won't wait your face. But you gotta keep it this way. But I won't wait you today. You gotta keep it this way. Gonna buy some stock of your company. Gonna be your boss someday. Look out, man. Look out.
Voilà, c'est la deuxième heure de ce 1116e Sweet Home Chicago avec l'invité du jour en direct live, c'est monsieur Jerry T. Salut Jerry.
Salut Marc.
Très heureux de t'avoir au téléphone. Merci pour les auditeurs, merci pour tout ce que tu fais. On va dérouler ça au fil de cette interview avec, on va dire, trois parties. Toi, ton bouquin et ton disque, parce que c'est pas facile de te cerner, Jerry. Tu es quelqu'un d'un peu multicasquette, on va dire, c'est ça?
Exactement, un petit peu partout. Dès que ça parle de blues, je suis là.
Dès que ça parle de blues, tu es là et tu le fais pas seulement sur scène, pas seulement derrière ton ordinateur, mais sur tout plein de médias. Tu fais de la radio.
J'ai fait, oui.
Fait de la radio. Ça, c'était une émission qui s'appelait Cosmic Blues sur Radio Olympiade,
ouais.
C'est ça?
C'est ça, Cosmic Blues, ça s'appelait, oui.
Et quand tu dis ça s'appelait, ça fait longtemps que ça s'est arrêté?
En fait, j'ai fait la première saison et puis ils m'ont proposé de remplir avec une deuxième saison. Puis par manque de temps, là, avec tous les projets blues, j'ai choisi de réduire sur la radio à ce moment-là.
Et donc, on peut te retrouver, ou on pouvait te retrouver sur un autre média qui s'appelle Lords of Rock, c'est ça? C'est toujours d'actualité, ça?
Ouais, c'est ça, exactement. Lords of Rock, j'écris toujours des chroniques, des interviews, ainsi de suite.
Et puis Blues Magazine.
Ouais, et Easy Kazik également.
Easy Kazik.
Sur voilà. Internet. Et Blues Magazine en kiosque et en format papier, ouais.
Et tu es également un activiste de France Blues?
Absolument, oui.
Bon, est-ce qu'il y a des médias blues qui échappent à ton activité? Tu fais également partie, on va dérouler ça tout à l'heure, de Jerry T and the Black Alligators, ta propre formation depuis 2014.
Ouais, hein. Tout à fait.
Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Donc le Jerry T and the Black Alligators, produit par l'association Les Écailles du Blues, avec laquelle on fait aussi des conférences des conférences sur l'histoire du blues.
Et en plus des conférences sur l'histoire du blues, c'est juste incroyable. Alors, au vu de ton jeune âge, Géry, est-ce qu'on peut donner ton âge ou est-ce que c'est vraiment confidentiel?
On peut le dire, on peut le dire. C'est 34 ans.
34 ans, et là, tu as déjà toute cette activité-là que tu gères et tu composes également avec une activité professionnelle, ou c'est vraiment ton métier, tout ça?
Le blues, là, lui tout seul, ne me permettrait pas de vivre en l'état actuel, malgré tous ces petits projets assemblés. Donc, j'ai un métier de jour et j'ai un métier de nuit. Mon métier de nuit, c'est le blues dans toute son étendue.
Alors, donc, Géry T, né à Arras, célibataire, ça aussi, c'est toujours d'actualité?
Ah bah non, ça l'est plus du tout. Non, absolument pas. Je suis fiancé avec ma chérie, Marie, voilà. La future Marie T.
Très bien. Donc là, il faut juste arrêter de faire rêver les jeunes filles qui sont autour de nous. Voilà, Géry, il n'est pas célibataire. Mm-hmm. D'accord.
Absolument.
Géry, comment et quand es-tu tombé dans la marmite du blues?
Moi, j'ai commencé la musique tard, à 20 ans. C'était d'abord la passion, et puis j'ai vite découvert que je n'y connaissais rien du tout. Et par la guitare, puis par l'amour du rock et du hard rock, on commence à creuser. Je suis tombé dans les sujets du blues. Je suis tombé amoureux de Muddy Waters, Johnny Hooker, qui pour moi sont des exemples absolus, et Buddy Guy à la guitare. Et à partir de là, le blues ne m'a plus lâché. Donc à partir de 21 ans, quoi. Ça va faire 12-13 ans que c'est ma passion quotidienne, quoi.
Une passion quotidienne qui remonte finalement à assez peu de temps au vu de l'activité de tous les confrères qui nous entourent. Et c'est vrai que tu t'es fait une place très récemment, on va dire, parmi les médias blues. Est-ce que ça a été facile de te faire accepter, par exemple, par les directeurs de festival en tant que chroniqueur, en tant que photographe?
Oui, ça se fait au fur et à mesure. Vraiment, dans mon cas, à partir du moment où ça se fait, je dirais, avec intelligence, où ça se fait sérieusement, où on est invité quelque part et on rend ce qu'on a à rendre, et donc les photos, les chroniques ou les interviews dans un délai correct, voilà, ça s'est toujours bien passé. Et puis ensuite, c'est un petit monde quand même, donc à partir du moment où tu commences à connaître une ou deux personnes, très vite tu recroises les chroniqueurs, les photographes, les musiciens, les programmateurs, et ainsi de suite. Et voilà, si ça se passe bien pour tout le monde, il n'y a pas de raison que ça continue pas, a priori.
On a écouté tout à l'heure un premier extrait de ton album Where is the Meat. Enfin, quand je dis ton album, c'est l'album de Géry T and the Black Alligators, Where is the Meat, avec Big Company Blues, featuring Michel Benjeloun. Ça fait partie des gens qui donnent de leur temps et de leur générosité pour aider les jeunes comme toi qui s'y mettent.
Ouais, tout à fait.
J'imagine toutes ces casquettes, là, ça t'a permis plein de rencontres. On est toujours ton initiation au blues, ou est-ce que tu penses que maintenant, ça y est, tu connais suffisamment de choses, par exemple, pour écrire un bouquin?
Alors, pour écrire un bouquin, oui, tout à fait. Alors, cependant, pour savoir assez de choses sur le blues, non, on n'en sait jamais assez. Lire des encyclopédies ou des livres de confrères, ainsi de suite, ça enrichit la culture, ainsi de suite, mais l'histoire du blues est tellement riche. Je me plais beaucoup à lire les bios de Muddy Waters, de Buddy Guy, ainsi de suite. C'est là où j'y trouve beaucoup de détails, mais c'est pas suffisant pour dire qu'on en connaît assez.
Géry, j'ai envie de dire bienvenue, mais ça fait déjà un bon moment qu'on te voit un petit peu partout. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un activiste du blues?
Dites-le, si, tout à fait, moi ça me ferait très plaisir, merci.
Comment est-ce que tu fais pour concilier toutes ces activités-là qu'on vient d'énumérer avec ton activité professionnelle et puis bien sûr la vie de famille?
J'ai un ami, moi, qui a une théorie qui me dit que je vis dans un trou noir et que pour moi le temps ne s'écoule pas pareil que pour tout le monde. Bon, blague à part, non, mais je le fais, point, c'est tout. J'arrive à m'organiser pour... dès que je me suis engagé à être quelque part, je suis là. Point, c'est tout. Et le reste, je m'organise, c'est moi que ça regarde, et voilà.
Géry, l'ami dont tu parles, c'est pas Fred Delforge, par hasard?
Non, Fred, c'est... On partage un tas de choses avec Fred, mais pas cette histoire de trou noir.
Pour poursuivre sur ton expérience avec le blues, et puis avant d'aborder tout à l'heure le livre qui s'appelle Histoire du blues, et puis le disque précisément Where is the Meat, qui est, je crois, le sixième album du groupe, Avant d'aborder tout ça, on va en venir peut-être aussi à l'initiation sur le terrain, parce que je sais que tu es parti de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que tu y as trouvé dans le Mississippi, par exemple, ou du côté de Memphis?
Absolument, j'y ai tout trouvé. Aujourd'hui, j'y suis allé 9 fois aux États-Unis, 6 fois dans le Mississippi, dans le Mississippi ou dans le Tennessee. Alors, mon premier voyage dans le sud des États-Unis, c'était en 2013. Et en 2013, tout seul, avant que j'intègre France Blues, avant que je démarre J.T. and the Black Alligators. Et à ce moment-là, j'étais un jeune, j'étais trop jeune, voilà, tout simplement. Et de découvrir le Mississippi dans toute sa simplicité, les musiciens dans leur simplicité, aller dans les Duke Joints et voir des mecs avec 4 cordes foutre le feu dans le Duke Joints. Moi, j'ai eu la chance de voir parmi les derniers concerts au Poor Monkeys Lounge, qui est un des lieux pur Duke Joint, quoi. Et de voir les mecs, ouais, péter les cordes et foutre l'ambiance jusqu'au bout. C'était la grosse leçon, au point de me dire quand je suis rentré, ok, bon, bah, les pédales, là, mes pédales d'effet de guitare, je les enlève. Oui. Les guitares de métal, machin, je les enlève, ça sert à rien. Ok, si à poil, avec une guitare acoustique et avec un 4-fiche blues, je suis pas capable de mettre l'ambiance, ça sert à rien de le faire. Et à partir de là, j'ai tout repris. Et à chaque nouvelle occasion de voyage, par le biais des associations, ainsi de suite, j'ai continué à engranger le maximum. Chaque voyage dans le Mississippi, ça te change complètement, quoi.
Oui, c'est plus que l'initiation, on est complètement dans le bain. Et justement, tu évoques ces associations, dont France Blues, présidée par Fred Delforge. Je voulais savoir, question double, Jerry, qu'est-ce que France Blues t'apporte? Et toi, qu'est-ce que tu apportes à France Blues?
Oui, alors question double, je vais commencer par comment je suis tombé sur France Blues.
Oui, aussi, oui, bien sûr.
Après ce voyage là d'ailleurs de 2013, je me suis dit bon, si moi je découvre le blues, je pense qu'il y a des passionnés en France et que ensemble on doit pouvoir faire quelque chose. Et j'ai tapé le blues en France sur Google et je suis tombé, le premier site c'était France Blues. Bref, donc à partir de là je me suis inscrit et c'est par le biais des médias que j'ai rencontré Fred Delforge, et d'abord par le biais de Zika Zik, et j'ai ensuite appris qu'il était parmi France Blues à ce moment-là, parmi les administrateurs. Aujourd'hui, il est devenu le président. Bon, et donc, moi, ça a été au fur et à mesure, j'ai découvert vraiment quel était le microcosme France Blues. Donc, qu'est-ce que France Blues m'apporte? Énormément de choses. On y rencontre, par le biais de l'association, des musiciens qui peuvent donner des conseils ou avec qui on peut partager des choses. On peut y rencontrer des programmateurs, et de la même manière, qui donnent autant de conseils que d'opportunités. Et puis, de manière générale, tous les gens de l'ombre du spectacle, et en particulier du spectacle pour le blues, dans le microcosme du blues, sont là en général et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et du coup, moi, vu que je pense que les choses, elles sont tous ensemble, que c'est tous ensemble qu'on peut faire des réalisations plus grandes, j'apporte ce que je peux à France Blues. Donc moi, je suis adhérent activiste, comme tu me disais avant. Et dès que je peux être présent à, je sais pas, un événement, filer un coup de main, filer des réflexions lorsqu'il y a des à l'Assemblée Générale, des choses comme ça, j'essaye au maximum d'être présent et puis de proposer des choses qu'on puisse réaliser ensemble, quoi.
Jerry, on va écouter un deuxième extrait de cet album « Where is the Meat » Jerry T and the Black Alligators. On se retrouve juste après.
Shuffle time. I ain't from around here. I don't come from your country. I am from around here now, and here nobody knows me. I got a funny feeling, baby, that there's a spot for me right here. I'm gonna be somebody now. You're gonna know my name. I'm gonna do something with myself, baby. Ain't gonna be nobody else. Now, big is what I'm gonna be. Sure as they call me Jerry T. Gonna sing, oh, 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 oh.
when I'm not around, baby. You still be looking for me. There's a spot for me right here now, and you know what it's gonna be. Gonna sing low. Time. All right, baby. Here comes.
On vient d'entendre Won't Forget About Me avec Stéphane Avellaneda dans l'album Where is the Meat de Jerry T and the Black Alligators. Toujours au téléphone avec Jerry, ça va?
Ah oui, ça va toujours.
On va aborder ce livre que tu as sorti chez Camion Blanc il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, qui s'appelle Histoire de Blues, un livre très costaud, très épais, 500 pages, on va le dire carrément. Oui. Est-ce que tu me permets de relire la quatrième couverture, Jerry?
Vas-y.
Voilà, comme ça, ça va nous donner tout de suite le cœur du sujet. Passionné de musique et de blues, pratiquant la guitare et le chant dans son temps libre, Jerry T n'imaginait pas qu'un jour cette passion prendrait de telles proportions. Il n'imaginait pas non plus qu'à plusieurs reprises, il irait visiter Memphis, berceau du rock'n'roll, la Nouvelle-Orléans, donc le lieu de naissance du jazz, ou encore le Mississippi et tous ces lieux mythiques de l'histoire du blues. Il n'aurait même pas osé imaginer arpenter ces lieux aux côtés de personnalités de la musique. Une chose en entraînant une autre, il suffit parfois de dire oui pour se retrouver au cœur de mouvements qui nous dépassent. Avoir l'occasion de rencontrer des personnalités influentes de la culture musicale ou se retrouver à partager des bouts de chemin avec des personnages plus colorés les uns que les autres, tous au service d'un mouvement majeur de la culture musicale internationale. Plus encore, avoir le rôle du témoin et faire partie de ceux qui passeront le message aux futures générations, c'est un honneur et une responsabilité qu'il convient de saisir sans fard. Voilà, ça campe bien le sujet, Jerry. Il est question de rencontres, il est question de coups de cœur, il est question d'interviews, il est question de blues, et puis il est question d'amour, d'amitié. Enfin, il y a des rencontres comme ça qui se sont faites au hasard, d'autres qui étaient programmées. On peut citer peut-être parmi les Français, parmi les Américains, des gens marquants dans l'histoire de la musique, et notamment Billy Gibbons, qu'on a eu l'occasion d'interviewer ensemble, souviens-toi, c'était à Megève en 2019. C'est la première fois qu'on s'est vu d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre avec le leader de ZZ Top?
Billy Gibbons, leader de ZZ Top, un morceau d'histoire de la musique, de toute la musique internationale, à lui tout seul. Un druide, un sage, on s'est assis autour de lui et on a écouté ce qu'il avait à nous raconter, quoi. Quelque chose d'inoubliable.
Tout à fait, ouais. Et puis cette fameuse petite anecdote avec le peso, là, enfin, c'était très visuel. Voilà, donc le médiator qu'il utilise, c'est fabriqué dans un peso. Il y avait encore sûrement plein de choses à se dire. Ça s'est terminé de façon un peu abrupte, on va dire. Hein, je crois que...
Exactement, c'était rapide. Sa femme est venue nous retrouver en disant « Dis donc, Billy, il faut aller prendre l'avion, donc ça suffit pour l'interview. »
Eh oui.
Et je reviens sur le peso, tout à fait. Ouais, c'est pas du tout une question que je savais, pas du tout un fait que je connaissais. Heureusement que tu as posé cette question-là, j'ai découvert qu'on pouvait faire des médiators en métal. Et côté culture, voilà, il nous fallait un Billy Gibbons pour apporter ça, quoi.
T'as essayé personnellement de jouer avec une pièce de monnaie?
Ouais, tout à fait. C'est pas pour moi.
C'est pas pour toi.
Non.
Ou alors il faut monter du 1358 comme Stevie Ray Vaughan, je sais pas.
Exactement. Ouais. Billy Gibbons, il est plutôt corde toute fine, donc je sais pas comment il concilie les deux. Bon, en tout cas, moi, c'est pas pour moi.
En tout cas, il a quelqu'un derrière pour lui accorder ses guitares, j'imagine. Alors, parmi les Américains, on va pas citer tout le monde, mais il y a quand même des gens marquants, Lucky Peterson, Tedeschi Trucks. Tedeschi, Derek Trucks, qu'on écoutait d'ailleurs en première heure de cette émission, Michael O'Kierman, Eric Gales, Mr. Sip. Quels sont, parmi les Américains, on va dire plus précisément maintenant, quels sont les gens qui t'ont paru le plus à vif et qui t'ont le plus révélé de choses et avec qui tu as eu un échange, on va dire, un petit peu au-dessus d'une interview de base?
Oui, tout à fait. Alors justement, dans ce livre, il y en a quelques-unes, et d'ailleurs, qui, parmi les médias auxquels je les ai diffusés, parfois par manque de place, par manque de pages, toutes les questions ne sont pas passées. Donc là, dans le livre, on a les questions complètes, avec toutes les réponses. Et donc, dans ce genre-là, moi, j'en ai deux. J'ai Eric Gales et Walter Trout. Je vais commencer rapidement avec Eric Gales, qui me raconte son passé dans les drogues et puis son combat pour s'en sortir et comment la musique et puis la rencontre avec sa femme, la Donna Gales, l'a sorti de tout ça. Moi, je trouve que l'interview est très poignante. Je laisserai les lecteurs se faire leur propre idée. Et ensuite, Walter Trout. Voilà, tout simplement, Walter, comme Eric Clapton en son temps.
Qui faisait partie de Mayall, des Blues Breakers de John Mayall, voilà, en 1966, voilà. Effectivement. Tu n'as pas interviewé Eric Clapton?
Je l'ai chassé pendant longtemps, mais non, pas encore.
Pas encore, donc ça veut dire que tu ne renonces pas?
Absolument pas.
On est d'accord. Walter Trout, Walter Trout, qui a une très très belle carrière solo, dont tous les derniers albums sont vraiment plus superbes les uns que les autres.
Et en fait, quand il me raconte son histoire avec John Mayall, comment John l'a découvert, et puis derrière, comment John l'a mis en avant, et donc, où quelque part John Mayall, comme pour Clapton, est responsable de la carrière solo de Walter aujourd'hui, Walter Trout se met à pleurer, et je pense que ses réponses ont été très profondes et très sincères. Et voilà, c'est parmi les interviews les plus touchantes.
Tu évoquais les Blues Breakers avec la présence de Walter Trout à un moment, donc aux côtés de John Mayall. Il y a également Buddy Whittington qui en a fait partie. Tu l'as rencontré aussi, Buddy Whittington, non?
Non, je n'ai pas rencontré Buddy Whittington. J'aurais aimé faire une interview comme... j'aimerais bien faire une interview comme ça.
Et puis parmi les Français, alors il y a des gens très célèbres, Jean-Jacques Minto, Craig Slapp, enfin il y a l'eau du panier avec Paul Persson, enfin il y a des gens, Manu Lanvin, Fred Chapelier, voilà des gens qui sont tout à fait hautement recommandables, Gaël Busvel, elle a une particularité, c'est que tu lui as demandé de faire sa préface.
Tout à fait.
Comment c'est arrivé cette idée-là?
Alors, par nos chemins musicaux avec Gaël et avec Michel, avec toute l'équipe de Gaël Busvel, on est devenus amis, de connaissances, d'intervieweurs qui venaient de médias, qui venaient uniquement la rencontrer en interview. On s'est revu, maintenant on est devenus des amis, et Gaëlle, je lui ai demandé tout simplement, elle était en train de réaliser son album, d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller avec eux à Londres lors de leur session.
À Abbey Road, vraiment?
À Abbey Road, oui, tout à fait.
Génial,
ouais. L'interview à Abbey Road est dans le livre d'ailleurs, tout comme elle a été diffusée chez Blues Magazine. Donc voilà, on a vécu des moments assez forts ensemble. Et à Gaël, je lui ai proposé au moment où moi j'ai tapissé la maquette du projet, elle m'a dit mais Jérôme c'est fou, bien sûr, avec plaisir, je n'ai jamais fait ça, mais une préface, vas-y, je te la fais quoi.
Ben tiens, je vais te mettre un petit bout de ce disque là. Tu vas me dire si tu avais assisté précisément à l'enregistrement de ce titre. Voilà, on est sur la reprise de Help des Beatles,
ouais, tout à fait.
Jerry.
Tout à fait.
Tu les as vus jouer ça là-bas?
Alors, ils ont été deux jours en studio. Moi, j'ai fait la deuxième journée et cette reprise de Help, ils l'ont fait le premier jour. Donc moi, quand je suis arrivé, ils étaient dans la retombée de tout ce sentiment de faire une reprise des Beatles dans le studio des Beatles.
Une émotion incroyable, en fait.
Ah oui, mais absolument. Ouais. Ils étaient fous.
Est-ce que tu as fait, Jerry, la fameuse photo sur le passage piéton à Abbey Road?
Oui, j'en ai une tout seul, oui.
je vais me permettre de lire ici la fin de la préface de Gaël Busvel, de ton livre, Jerry T, qui s'appelle Histoire de blues. Gaël écrit, ouvrez les guillemets, « Le blues est ici représenté par des légendes, mais aussi par la scène indépendante française, un joli melting pot qui permet de ressentir une culture commune, celle du blues, que l'on soit de la Nouvelle-Orléans, de New York, de Memphis, de Paris, que l'on ait 10, 20, 40 ou 70 ans, le blues est intergénérationnel, le blues est présent partout, une spirale de styles musicaux ont vu le jour, mais on en revient toujours à la base, à ses fondements, que aussi bien ce sont bien ceux du blues, cette inspiration de nombreux courants. Le blues, ses racines, son histoire, son impact sur l'histoire, c'est ce que vous allez découvrir à travers ces différents récits et le vécu de ces artistes. Voilà, ceci n'est Gaël Busvel qui vous donne envie, je pense, à vous auditeurs, peut-être d'acquérir cet ouvrage de Jerry T qui s'appelle Histoire de blues. Jerry, voilà, sur ce livre, comment est-ce que, ce sera ma dernière question à propos du bouquin, comment est-ce que tu as eu l'idée, en fait, de réunir toutes ces interviews en un seul volume?
En fait, en 7 ans de médias, j'ai eu l'occasion de faire environ 80 interviews d'artistes de tout niveau, de toute génération, de tout bord, je dirais. des Français comme des internationaux. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la partie blues de ces interviews était de plus en plus conséquente et avec des choses qui, peut-être, les lecteurs sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas pris le magazine ce jour-là ou n'ont pas cliqué sur l'interview. Et peut-être qu'il y a des choses avec des messages véritablement profonds, des types d'inspiration, des choses qui peuvent peut-être nous toucher tous, sur lesquels ils sont passés à côté dans l'aspect média. Donc j'ai voulu donner un nouveau médium et l'idée étant bien sûr de donner la parole aux artistes de blues parce que je pense qu'aujourd'hui, quand bien même son histoire, sont les artistes de blues, donc ceux qui le font vivre sur le devant de la scène, qui probablement en parlent le mieux de c'est quoi le blues dans toutes les nuances qui existent. Et donc voilà, j'ai gardé les 35 interviews qui avaient entre guillemets l'aspect histoire de blues, l'aspect anecdote, l'aspect
qui avait le plus de signification peut-être aussi pour
voilà.
toi.
Mmh. Exactement.
Ouais. En corollaire à cette dernière question, c'est vrai que c'est une démarche qui avait déjà été initiée par des gens comme Christophe Goffet ou par exemple David Baers pour ses deux volumes de Hexagone Blues hein, qui reprenaient en fait des interviews soit radio, soit de la presse écrite. En quoi est-ce que toi tu te démarques de ces deux auteurs principalement ?
Je n'ai pas lu leurs ouvrages donc je ne vais pas pouvoir répondre.
Je te reposerai la question dans un an, il n'y a pas de problème.
Exactement,
Jerry. On va écouter un nouvel extrait de l'album de Jerry T and the Black Alligators. L'album s'appelle Show Where is the Meat. Voici Cold Shadows.
the things that were good to me. They weren't enough to save me. I had a fight to reach a new life. I had a fight now just to make it out like a shadow.
Voilà, on vient d'entendre Cold Shadows sur l'album Where is the Meat par Jerry T and the Black Alligator. Je suis toujours au téléphone avec Jerry T. Ça va?
Oh yeah!
Ça va toujours? Yes. On a abordé ce livre qui s'appelle Histoire de Blues et puis on n'a pas encore terminé avec toutes les casquettes que tu portes, Jerry, parce que tu n'es pas seulement chroniqueur, tu n'es pas seulement un homme de radio, tu n'es pas seulement un photographe, tu n'es pas seulement un intervieweur ou un conférencier, tu es également musicien. On en a parlé en tout début d'émission, tu t'es mis à la guitare. Soi-disant, tu as tardivement à 20 ans, moi je suis désolé, il y a des gens qui se sont mis encore plus tard que ça et ça ne les empêche pas de faire la carrière qu'ils font. Mais c'est vrai que la plupart des musiciens, on a l'impression qu'ils ont commencé à 4 ans comme Mozart. Enfin, c'est pas ton cas, mais j'ai l'impression que tu t'es quand même bien rattrapé.
Bah, oui, c'est la passion, ce genre de choses. Tu t'y mets, tu comptes pas les heures et puis il se passe quelque chose. Quoi.
Donc au début, tu joues tout seul ou dès le départ, tu as des amis avec qui tu fais des répètes le mercredi après-midi. Je sais pas, raconte-nous un peu ton initiation à la musique, le parcours. Voilà.
D'accord, j'ai dû faire de la musique tout seul pendant un ou deux ans. Passion dévorante, je jouais de la guitare tous les jours à ce moment-là. Je dormais avec ma guitare la première année. Bref, donc au bout de deux ans, je sens que l'envie d'évoluer, de pratiquer en groupe avec d'autres musiciens se fait sentir. Puis à partir de là, tu découvres un petit peu les nuances du travail en groupe. Donc des titres qu'on fait fonctionner et puis d'autres voilà, qui sont moins dans le sentiment, moins de ce qu'on a envie de faire, pour ma part, le blues. Bref, peu importe, assez rapidement, je monte un groupe de blues, pure blues. Et puis, donc, il y a ce voyage, ce premier voyage en 2013, là, qui pour moi change énormément de choses.
Voyage initiatique, c'est vrai, il y a le Jerry T d'avant 2013 et il y a celui de depuis 2013, j'ai l'impression.
Ben, je vais même te dire qu'il n'y a pas de Jerry T avant 2013, puisque j'ai été baptisé dans un club à la Nouvelle-Orléans, Jerry, pendant ce voyage à la Nouvelle-Orléans.
Rappelons que ton prénom sur la carte d'identité, c'est Jérôme.
Oui, voilà. Tout à fait. Et en fait, lors d'un jam dans un bar à la Nouvelle-Orléans, il se trouve que le petit Français venu de l'autre bout de l'océan a foutu le feu dans l'allée où il y a tous les bars à la Nouvelle-Orléans. Et les musiciens qui nous hébergeaient à ce moment-là, parce qu'on est tombé dans une maison d'artistes, tout ça, les potes qu'on avait sont venus me voir à la fin en disant « Écoute, à partir de maintenant, tu t'appelles le nom le plus proche de ton nom, Jérôme, en anglais c'est Jerry. So from now on, you will be called Jerry. » Puis je suis rentré, j'ai rajouté le T. Et donc là, après 2013, il y avait Jerry T. Avant, il n'y en avait pas. Et à partir de là, en gros, dans les six mois, on a fondé avec à ce moment-là en trio le Jerry T and the Black Alligator, ce qui est devenu aujourd'hui le groupe en quintette ou en sextette. Et puis voilà, ça fait donc 6 ans, 7 ans que le groupe Jerry T and the Black Alligator existe, qui est mon projet principal. J'ai toujours un petit peu d'autres projets à gauche, à droite, autour. Mais sans Jerry T and the Black Alligator, je ne pourrais pas respirer. Quoi.
Les deux membres fondateurs du premier trio sont-ils toujours dans la formation actuelle, Jerry?
Alors, David, le batteur, est parti pour raisons professionnelles dans le sud-ouest. On a joué 2 ans ensemble. Il a été remplacé par un ami,
Fabien.
Batteur, Fabien, voilà, qui est toujours là, présent maintenant, 5 ans plus tard. Et donc, Nico, le bassiste, c'est le membre original, l'Alligator 100%, qui était là depuis le début.
Je te laisse nous présenter les autres musiciens, ceux qui sont sur cet album, Where is the Meat, et ceux qui partagent la scène avec toi, Jerry.
Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je viens d'évoquer Fabien et Nico. Alors, c'est la section rythmique, c'est eux le plus important, tout ce qu'on va faire par-dessus n'importe pas. On fait joujou, c'est eux qui tiennent la baraque, voilà. Donc je tiens vraiment à les saluer, Fabien et Nico. On a ensuite ajouté Eric James au saxophone, qui est un ami de David, le premier batteur, et de Nico. De toute façon, on est tous des amis aujourd'hui, c'est une famille, hein, les Alligators. Et donc Mr. Eric James, qui est arrivé il y a 4 ans, et JP, Mr. JP Armo, un des élèves de Greg Zapp.
Lui aussi, avec une liste impressionnante. On avait Greg au téléphone la semaine dernière, il nous citait des gens comme Rachel Place, des gens comme Christophe Maé. Enfin, il y a énormément d'artistes qui ont été les élèves de Greg.
Ouais. Hein,
lui-même élève de Jean-Jacques Milteau, rappelons-le.
Exactement. Bon.
Quelles sont les influences différentes, diverses de tous les membres du groupe? Est-ce que vous écoutez les mêmes disques?
Alors, par exemple, Fabien, il n'était pas du tout dans le blues quand il a commencé avec nous. Il est plutôt dans la pop française. C'est un énorme fan de Téléphone. Et d'ailleurs, il apporte sa frappe plutôt pop à notre blues. Et c'est un des sujets qui nous intéressait. C'est-à-dire que parfois, y compris à la batterie, on a des choses qui sont trop puristes. Et pour toucher un public peut-être un peu plus large, dans le blues, d'avoir ajouté cette frappe pop, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Mmh. Ensuite, Eric, il écoutait du blues, donc le saxophoniste, écoutait du blues et du jazz, donc on l'a mis un petit peu plus dans le côté blues de son jazz. Et lui, quand il veut, il rajoute quelques notes intelligentes à notre blues en 5 notes. Voilà. Nico écoute du blues rock et on était de toute façon dans les mêmes inspirations, George Thorogood, John Hooker, et on était dans la même maison. Et puis JP, qui a fait lui aussi ses voyages initiatiques dans le sud et dans le nord des États-Unis jusqu'à Chicago, ainsi de suite. Voilà, on est à la même maison. Hein. Il écoute Sweet Home Chicago, il écoute Advart Blues, d'autres radios typiques du blues. Voilà.
Y a une question que je me pose au fil des albums, au fil des pochettes que je vois défiler quand ils arrivent dans les bacs. Il y a toujours ce look de bagnard avec le costume à rayures horizontales, avec un petit peu à la Dalton. Ça vient d'où cette tradition maintenant dans Jerry Tear and the Black Alligators?
Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est avec l'album Niche de Beast, donc avec l'album précédent, on a voulu vraiment un visuel fort. Et moi, les racines du blues, le blues roots, c'est un des trucs moi, qui me touche le plus, qui m'inspire le plus.
Ouais, ça, on l'avait bien saisi.
Ouais. Et les chain gang, c'est vraiment, entre guillemets, obligatoire dans cette culture. Et on a voulu, avec les codes, jouer un petit peu avec les codes inversés. L'habitude, les chain gang, c'est plutôt les blacks aux États-Unis qui sont en rayure, en prison, emprisonnés. Et puis derrière, t'as typique du sud des États-Unis, philosophie typique du sud des États-Unis. Et on a voulu inverser ces codes-là. Et une fois qu'on l'a fait en photo, on ne pouvait pas ne pas faire un show avec.
Tiens, on va écouter un truc.
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men.
Un titre qui a été repris d'ailleurs par Muddy Gurdy dans leur dernier album, bien sûr, à leur façon. Tu parlais des chain gang, un petit peu à l'image, voilà, justement, de votre look, et pas seulement sur la pochette, c'est aussi sur les scènes qu'on vous retrouve dans cette tenue-là, à chaque fois, vraiment.
C'est devenu notre show.
Ouais.
Non, alors plus maintenant.
Non.
Plus maintenant depuis la sortie de l'album Where is the Myth, mais ça a été pendant 2 ans et demi, ça a été notre show.
Très bien.
On avait 2 shows, moi c'est comme ça que je proposais au programmateur, le show bagnard. Et le show Cérémonie du Blues façon Chicago.
D'accord.
Et il y a certains festivals sur lesquels on a eu droit de faire les deux. En première partie, on faisait les bagnards et ensuite on terminait Cérémonie Chicago.
D'accord. Est-ce qu'il y a un lien de causalité avec la dernière scène des Blues Brothers où ils font Jailhouse Rock
Bien sûr.
Voilà. Donc.
Ce sont des clins d'œil à tout ça, c'est obligatoire, toute cette culture. Ouais.
On a écouté tout à l'heure un morceau que vous partagez avec Michel Benjeloun. On terminera tout à l'heure avec un titre dans lequel Ronan One Man Band est invité, qui s'appelle Next Door Neighbor Blues. Ouais. Deux invités donc sur ce disque avec Stéphane Avigalella, bien sûr.
Voilà, tout à fait.
Bien sûr. Pourquoi des invités? Est-ce que 5 musiciens, c'était pas suffisant?
Alors d'abord, Michel Benjeloun a surtout réalisé l'album. D'abord, pour commencer, c'est comme ça qu'on a approché le projet. Et à partir de là, Michel réalisant l'album, il était dispo en studio. Et quand on avait une idée supplémentaire, évidemment, il disait « Bien sûr, moi je le fais ». Donc, on a crédité Michel sur les titres où il est en guest. Et d'ailleurs, c'est un plaisir de l'avoir en guest sur Big Company Blues. Et sur Crossroads, où on laisse péter les guitares, mais je te l'ai pas proposé dans la liste d'aujourd'hui. Stéphane Avellaneda, qui est un batteur bon, renommé du blues en France, qui a accompagné Anna Popovitch, aujourd'hui qui a son projet Rosaway, qui est moins blues, mais qui commence à avoir beaucoup de visibilité.
On terminera tout à l'heure avec un dernier extrait. C'est le cinquième album, je crois, sous ce nom-là, Jerry T and the Black Alligators.
Oui, tout à fait.
Et on peut vous retrouver sur scène très bientôt, je crois, le week-end du 8 et 9 octobre. J'ai vu passer deux dates à la Maison du Blues à Châtres-sur-Cher, c'est ça ?
Exactement. Le 25 septembre aussi, en finale du Challenge Blues français. Puis d'autres dates à venir, là, on est booké jusqu'en février.
Alors le 25 septembre, on va en parler un tout petit peu pour terminer. C'est un challenge dont le vainqueur, l'un des quatre groupes, donc, ira s'envoler pour Memphis en janvier 2022.
Tout à fait.
Eh bien écoute, on vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ce challenge.
Merci beaucoup. On y travaille, on met beaucoup d'énergie dessus, là, et nos shows... qu'on réalise là, ou les passages en studio qu'on réalise jusqu'au 25 septembre. Voilà, on maximise le maximum pour faire ce qu'on a à faire. On fera ce qu'on a à faire et le jury décidera. Hein.
Jerry, merci pour ça, merci pour toutes tes casquettes, merci d'avoir participé à cette 1116e émission Sweet Home Chicago.
Merci beaucoup, merci Marc, et merci Sweet Home Chicago, bisous à tous.
À bientôt sur la route du blues, salut.
Oh yeah.
Got a call from my neighbor this morning. Told me my own baby was gone. Got a call from my neighbor this morning. Told me my baby was gone. Took the key to my Cadillac. Left my clothes out all alone.
Well, I know it, boy.
It's at my door.
Voilà, on vient d'entendre un nouvel extrait de l'album de Jerry T and the Black Alligators. Merci encore à Jerry pour cette interview. Nous, on termine cette émission avec un retour tout de suite sur le disque coup de cœur du mois. Il s'agit toujours de Tommy Castro avec Hustle. Monsieur Tommy Castro, extrait de l'album Tommy Castro Presents Bluesman Came to Town chez Alligator Records, disque du mois pour Sweet Home Chicago en septembre. Voilà, on poursuit avec le retour de deux rubriques qui nous ont peut-être manqué la semaine dernière. On commence par la rubrique vieillerie. On est en 1966 et ce monsieur s'appelle Joe Tex. Voici Papa Was Too. C'était un tube à l'époque, je vous l'assure. Joe Tex.
All right, baby, you can call me that. Papa was. 'Cause I never done working from morning till night, and the money didn't seem to ever come out right. No, no. Papa was a tramp, but he was a lover too. So why can't I do like Papa do? Do like a papa do now, 'cause I'm his son. Why can't I be like my daddy? Low down and nasty. All right, if you wanna call me that, go ahead. I guess Papa was too. Just 'cause I don't take nobody's mess, I'll get mad in a minute. Jump in your chest.
yes he would. Just cause I got holes in both of my shoes, and I cover them holes with the Daily News. Papa was poor.
Joe Tex en 1966, rubrique vieillerie poursuite Homme Chicago. On va terminer avec 50 Years After, vous savez, le concept des albums enregistrés il y a exactement 50 ans. Cette année, on explore bien naturellement l'année 1971 avec Dr. John qui nous sortait cette année-là The Sun, Moon and Herbs chez Atco Records. Voici Dr. John avec Cranny Crow. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 13h sur le 666. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.
Chicken, my chicken, my chicken, my chicken. parade. Split for Ponce train in the middle of the rain. Eating up all the sugar cane. Yelling, geez, on my knees. Or just out to freeze. Give me a little heat to warm my T90.
Granny Crow, Dr. John, on est en 1971. On se retrouve samedi 25 septembre.
Come on, baby, don't you make me laugh.